RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat comme tous les jours. Vous prenez la parole au 32-16 avec nous aujourd'hui dans les GG. Joël Dagosséry, la coach de vie. Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée. Laura Vartan-Martinez, sophrologue. C'est la deuxième heure des GG. Si vous avez raté la première, elle est disponible en podcast. Et vous savez que les émissions, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur Instagram et sur YouTube, puisque les GG sont de plus en plus suivis et regardés
partout.
On est sur YouTube. Donc ne vous privez pas, tous les canaux de diffusion sont disponibles.
Bah tiens.
La deuxième heure des GG, Xavier Niel et Mathieu Pigas en commission parlementaire hier, la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Ça a été chaud entre le rapporteur Charles Alloncle et notamment Xavier Niel, le patron fondateur de Free et de Media One aussi, vous savez, la société de production. Donc on en parlera tout à l'heure.
Certains disent même que Xavier Niel a perdu ses nerfs.
Et lui, il a dénoncé un cirque idéologique mis en place par Charles Alloncle. Le Finistère, les druides qui abusent du RSA, c'est ce que dit Maël Decalan, le président du département. Là encore, on va en parler au 32-16 avec vous à 10h20. D'abord, on va regarder le cas Rima Hassan et écouter son avocat hier à la fin de la garde à vue. Alors, son avocat, Maître Vincent Brangart, qui hier est allé à la sortie du commissariat du 10e arrondissement, accueillir sa cliente qui venait d'être placée en garde à vue pour des histoires d'apologie de terrorisme. Et puis, il se trouve que dans son sac, on avait trouvé des traces de drogue.
La seule indication, c'est que Rima Hassan est libre. La garde à vue est terminée. Le magistrat a pris une décision que nous commenterons demain, en temps utile. En tout cas, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que nous considérons que les fuites qui ont eu lieu pendant la mesure de garde à vue sont parfaitement indignes. Et nous demandons d'ores et déjà au parquet d'en tirer l'ensemble des conséquences sans que nous ayons à déposer une plainte.
Alors, il y a deux choses. Il ne faut pas que Maître Vincent Brangart ne fasse mine de découvrir qu'il y a des fuites pendant les gardes à vue, quels que soient les clients et quelles que soient les affaires. Ça, c'est une chose. Et ensuite,
des fuites qui sont d'ailleurs parfois organisées par les avocats.
Par les avocats eux-mêmes. Et ensuite, il y a autre chose, et c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est le cas Rima Hassan et le placement hier en garde à vue.
Là, elle passe beaucoup de temps avec les policiers parce qu'elle est de nouveau convoquée ce matin par la police judiciaire. Alors, dans une autre affaire, nous dit-on, on ne sait pas laquelle. Donc, elle est de nouveau avec les policiers aujourd'hui. Alors, hier, c'était pour des accusations d'apologie de terrorisme. Mais le fait le plus cocasse, c'est que dans son sac, puisque c'est une garde à vue, donc ils ont fouillé ses affaires. Et les policiers auraient trouvé, c'est le parquet qui l'a affirmé, auraient retrouvé à la fois du CBD, qui peut être une substance légale, tirée du cannabis, si on a une prescription médicale, mais aussi de la drogue de synthèse, et ça c'est illégal. Donc elle risque d'être poursuivie pour détention de stupéfiants. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la première fois que un député de la France Insoumise est impliqué dans une affaire de stupéfiants. On va se souvenir que le jeune député Andy Kerbrat, député à l'Assemblée nationale cette fois-ci, a été condamné pour avoir acheté à un dealer mineur de la drogue. Il avait été pris
avec
en
l'argent avec de l'argent parlementaire.
Oui, il a reconnu que c'était avec ses frais de représentation.
Avec ses frais de représentation.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Joël?
Bon, moi, je trouve déjà qu'il y a tellement d'informations dans l'information. Enfin, on nous demande à nous, les Français, de dealer avec trop de...
Attention à ce terme, dealer.
Oui, pardon. Oui, c'est vrai.
C'est mal à propos. Enfin,
on nous demande quand même à chaque fois de nous adapter aux frasques de nos hommes et femmes politiques. Premièrement, elle est partie pour un tweet. Donc moi j'ai regardé, j'avais pas vu passer le tweet en question. Donc j'ai regardé un petit peu le tweet qui apparemment mettait en avant ou glorifiait un certain monsieur japonais d'un groupuscule terroriste d'extrême gauche et qui avait tiré sur des civils et qui a fait 26 morts. Donc
c'est un aéroport.
Premièrement, dans un aéroport, exactement.
72.
Il
était membre de l'armée rouge japonaise.
Voilà, je me demande à quel moment, lorsque tu es député d'une nation, tu trouves que c'est opportun, en fait, de communiquer de manière positive en raison de ce soutien, du soutien que ce monsieur il a pour la Palestine, hein, parce que c'était ça, le, je pense, le prisme.
D'ailleurs, la plupart des victimes étaient chrétiennes, parce qu'il y avait un groupe de chrétiens ce jour-là à l'aéroport,
c'est ça.
En fait. C'est ça, donc
ce que je comprends de Rima Hassan, c'est que son combat pour la Palestine indépendante, en fait, justifie tout. C'est-à-dire que peu importe qui est en soutien à la Palestine, peu importe ce qu'une personne a fait dans sa vie, tant qu'elle est en soutien de la Palestine, en fait, pour elle, ça devient une bonne personne, ça devient une personne à glorifier. Donc, elle fait pas de tri dans qui elle met en avant dans son combat. Ça, déjà, moi, ça me pose énormément de problèmes sur le plan moral. Ensuite, elle va au commissariat, donc avec son sac à main.
Elle nettoie pas son sac à main.
Donc, c'est-à-dire qu'elle va au commissariat, donc elle ramasse, parce que moi, des fois, tu sais, ça m'arrive, je descends chez Franprix, ouais, j'attrape mon sac à main. Et je le mets sur mon épaule.
D'ailleurs, montre-nous ton sac à main, on va fouiller un peu.
Bah là, ce qu'on va trouver, c'est des bonbons.
Oui, bah oui, on va trouver des bonbons.
Moi-même.
Mais quel type de bonbons ?
Donc, je me dis, elle va au commissariat comme elle va à la supérette, en fait.
T'as un mépris.
Et ce qui me fait encore.
Peut-être qu'elle ne pensait pas qu'on fouillerait son sac à main.
Oui, mais justement, c'est là où j'en viens. C'est que n'oublions pas que la République, c'est eux. Et comme la République, c'est eux, donc ils pensent qu'en fait, elle y va avec sa casquette de députée. Je suis députée, j'ai mon écharpe de députée, pas sur elle, mais dans sa tête. Et donc, je suis intouchable, j'ai mon immunité. Donc, je suis convoquée, j'y vais, en fait, comme une reine, et tout va bien se passer. Alors que le Français moyen, quand il est convoqué au commissariat, moi je peux te dire, si je suis convoqué au commissariat, non, c'est mon premier tunnel du mois, nous avons un quota.
Ça sera le dernier. Parce qu'on est que le 3h.
Je suis assez. Je trouve que ce qu'a dit Joël est assez pertinent sur le fait de son combat pour la Palestine et que même si son combat, je le comprends, je le trouve légitime, un combat pour qu'il y ait un État palestinien, bien sûr.
Politique.
Mais c'est vrai que sur ce combat, elle ne peut pas soutenir n'importe qui, n'importe quoi. Là-dessus, je suis totalement d'accord, bien sûr. Après, je pense que Rima Hassan, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est d'origine palestinienne et que dans ce pays, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a un discours, il y a une bien-pensance. On a décidé que, par exemple, il y avait 100 000 morts, mais qui étaient presque légitimes. Vous voyez, on envoie des bombes et des balles parce qu'on est pour faire le bien. Voilà, parce que nous comme dirait notre cher président Donald Trump, nous on est les gentils et eux ce sont les méchants. Voilà. Moi, je suis plus choqué quand je vois à la télévision quelqu'un qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Pouvoir se pavaner dans des médias français que de voir Rima Hassan. Je suis plus choqué par des maires qui sont élus alors qu'ils ont des procédures au cul pour des viols que Rima Hassan qui a du CBD dans son sac. Je suis beaucoup plus choqué et j'aimerais bien qu'on priorise les choses. Et je suis persuadé que aujourd'hui j'ai entendu des propos par certaines personnes sur des médias et dont notamment une grande gueule d'ici qui aurait pu tomber sur le coup de la loi si on avait inversé les propos.
Ah ben t'inquiète,
si on avait inversé les propos,
Mourad, voilà. Il y en a des procédures.
Donc, je ne vais pas soutenir Rima Hassan, mais je la soutiens pas qu'elle défend l'indéfendable uniquement parce qu'ils défendent les Palestiniens. Ça, elle n'a pas le droit.
Ça n'a rien à voir.
Mais aujourd'hui, sincèrement, c'est parce que Rima Hassan il a du CBD dans le contexte actuel dans son sac.
Et 3 MMC.
Ouais, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Je pense qu'il y a bien plus grave dans le pays actuellement.
Alors, Laura.
Que dire? Bref.
Ne dis rien. Hein. Non, ça ne manquera pas.
Hein. Peut-être pas à toi, mais je pense que les gens en ont un peu marre là sur le coup. Comment tu peux dire que on s'en fout? Non, je suis désolée. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi et j'arrête pas de leur poser et j'aimerais qu'on fasse un plus gros sujet, qu'on en parle vraiment de tous ces maires qui ont été réélus alors qu'ils sont condamnés à des violences faites sur des enfants. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu peux t'insurger d'une chose et t'insurger d'une autre. T'es pas obligé de les déclasser. Maintenant, si Madame Hassan veut tellement sauver la Palestine, qu'elle y aille, en fait. Mais qu'elle y aille, parce que là, elle se pavane, je suis désolée,
elle est française.
Mais est-ce que si tu as dit quelque chose, moi je suis pardon, hein, mais si elle veut défendre la Palestine, qu'elle ne le fasse pas avec l'argent des Français dans ces cas-là, qu'elle le fasse avec l'argent des Palestiniens, parce que je n'entends pas beaucoup parler des Français, je l'entends plus parler des Palestiniens, donc dans ces cas-là, c'est pas moi qui paye, ça c'est première chose. Et ensuite, c'était pour te répondre. Et ensuite, la deuxième chose,
Et notre ancien député qui défendait, qui était sur Israël, on entendait souvent parler des Français. Comment il s'appelle?
Est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui? Tu m'aurais entendu dire exactement la même chose. Maintenant, si tu veux tourner mes propos, on peut jouer, il n'y a pas de souci. Donc, en revanche, moi, ce qui me rend folle toujours chez les Insoumis, c'est cette victimisation. Donc là, ça va être le méchant flic qui lui a peut-être mis le truc dans son sac parce que il y a un complot contre Rima Hassan. Ensuite, on parlait de Andy Kebrat, c'est peut-être un méchant dealer qui lui a arraché son enveloppe parlementaire. C'est peut-être la femme de Monsieur Quatennens qui a tendu sa joue pour que Monsieur Quatennens puisse la battre. C'est Monsieur Raphaël Arnaud. En fait, c'est de la légitime défense. Donc, en fait, c'est pourquoi de l'injustice constamment? Pourquoi
ça commence à faire beaucoup?
Mais ça fait beaucoup. Enfin, et je suis désolée.
Je peux lancer un débat. Autre que le débat de la Palestine, parce que je pense que c'est pas le sujet. Je pense que le débat, c'est quand même plus. Et la judiciarisation. Je trouve que maintenant, le débat politique se termine trop devant les tribunaux. Et ça vaut pour tout le monde.
Mais complètement.
Ça vaut sans doute pour Rima Hassan, mais ça vaut aussi pour nos grandes gueules qui sont dans des procédures, etc. Ça vaut d'une manière générale. C'est-à-dire que, et le problème, c'est que la France Insoumise y participe parce que la France Insoumise est assez procédurière. Elle fait elle porte plainte, elle fait des signalements à l'ARCOM. Moi, je voudrais qu'on se pose la question. Dans ce pays, est-ce que ce sont les magistrats qui doivent arbitrer le débat public?
Je suis d'accord avec toi.
Parfois, il y a des dérapages. Effectivement, retweeter ce qu'a fait un terroriste dans les 70, c'est naze, c'est dégueulasse, etc. Est-ce que ça doit se terminer par une garde à vue? Je me pose la question. Moi, je n'y crois pas. Je pense que sincèrement, dans ce pays, les policiers sont débordés. Bah. Les juges, on nous explique matin, midi et soir que la justice, n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui attendent 5 ans avant d'avoir leur procédure de divorce, par exemple, réglée. Des chefs d'entreprise qui attendent aussi des procédures très importantes. Et ça prend un temps fou. Et derrière, les magistrats s'amusent sur des trucs médiatiques, etc., qui n'aboutiront pas très loin.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Moi, j'aimerais bien que la justice foute un peu la paix au débat public, aux politiques, aux chroniqueurs, et qu'elle se concentre un peu sur l'essentiel. L'essentiel, c'est les femmes battues, c'est les gens qui sont tués. C'est ça, l'essentiel. C'est pas les propos parfois excessifs, des tweets, des retweets. En plus, ça ne mène à rien à chaque fois, on le sait très bien.
Alors, les médias sont une caisse de résonance. Moi, je considère que, par exemple, comme les réseaux sociaux, d'ailleurs, je ne sais pas combien d'abonnés elle a, Madame Hassan. D'ailleurs, t'es même pas besoin d'être abonné parce que moi, je crois que je suis pas abonné à Rima Hassan. Et pourtant, je vois ces trucs défiler dans mon fil d'actualité.
Par des abonnés que tu as qui sont abonnés.
Voilà, exactement. Donc, les réseaux sociaux, les médias sont une caisse de résonance. Je suis désolée. Moi, je suis fatiguée de me sentir insultée ou brutalisée par les paroles des uns et des autres. Donc, si la parole, elle contrevient à la loi, comme elle l'a fait, parce que moi j'ai regardé un petit peu, on a dit que le soutenir
le soutenir
le terrorisme, c'est aussi, si j'ai bien compris, mettre en avant de manière positive
on a assez la mettre en garde à vue
parce que normalement elle était pas en garde à vue, elle était en audition libre. La garde à vue, c'est parce qu'ils ont trouvé sa drogue dans le sac, donc elle était pas en garde à vue.
Il n'y avait pas de drogue. Ça, c'est ce que dit Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise.
Mais
il dit,
je veux dire que
il n'y avait pas de drogue. Oui. Or,
le parquet dit qu'elle avait.
Oui, mais moi, je voudrais savoir pourquoi.
Pas sur place.
Pourquoi est-ce que Manuel Bompard, qui est le coordinateur d'un parti politique dont le candidat est, dont le chef est candidat à l'élection présidentielle, dit qu'il n'y avait pas de drogue et dit le contraire du parquet?
C'est pas le crime premier de la planète qu'avoir de la drogue dans son sac. Excuse-moi,
je veux dire.
Mais non, il faut arrêter. Quand même.
C'est pas le crime premier. Je veux dire, si elle a du CBD, c'est pas un crime.
C'est l'idole d'une certaine jeunesse. Sa jeunesse a toujours été de gauche et c'est très bien. C'est l'idole d'une certaine jeunesse.
Une jeunesse qui se peinte à la bière, au whisky.
Et c'est une idole.
Voilà, c'est exactement pareil.
C'est exactement pareil. Et qui valorise le Hamas.
C'est une norme. Vous mettez des millions de personnes en garde à vue.
On a envie que des gens qui sont camés.
Il faut arrêter de se masquer les yeux. La drogue, ça circule dans ce pays. Il y a tout le niveau.
Toi, tu veux des camés à la tête de l'État.
Mais tu as que ça.
Et bien, justement. Et c'est pour ça que ça doit s'arrêter.
On est obligé d'applaudir dès demain.
J'ai pas envie d'être dirigé par des camés. Je suis fatigué de voir des sénateurs qui droguent leurs collègues pour les violer. Je suis un sénateur. Je suis fatigué de voir un député qui se rend dans les quartiers sensibles pour aller acheter sa drogue. Je suis fatigué de voir une nana qui se dit dit bah moi je fais la police avec mon M, je sais pas quoi, machin. Non, écoute, je suis pas obligée de cautionner ça.
Ça dit quelque chose de la banalisation de la drogue.
Donc tu fais partie de cette catégorie de Français qui pensent que nos politiques sont des exemples.
Normalement, c'est pour ça que tu sais que
dans Casimir, il y a quelqu'un caché quand même. Parce que...
Soyons
pas naïfs non plus. Aurad a raison. C'est dire, ne
faisons pas. Tu t'envoies quel message dans ces cas-là, tu la mets pas.
T'envoies le message de la vérité, de la réalité.
Elle sera sans doute condamnée pour ça. Elle doit l'être. Mais ne soyons pas naïfs. La drogue circule partout dans
les lieux. Bien sûr.
Et malheureusement, elle circule aussi sans doute dans le milieu politique.
Je ne demande pas à ce qu'ils soient parfaits. Je demande à ce que quand ils ne le sont pas, qu'ils soient arrêtés.
Mais personne n'y croit.
Et voilà.
Mais
c'est compliqué. Donc c'est ce qui se passe là. Donc je vais pas dire ah oui mais c'est pas grave parce que un tel machin.
C'est souvent compliqué d'arrêter des gens qui sont chargés d'arrêter les gens.
Moi je parlais pas de la drogue. Je parlais effectivement la drogue. Il faut s'en
occuper. L'alcool aussi.
Les députés, etc. Mais je parlais de sa convocation garde à vue pour apologie de terrorisme. Je trouve que il y a trop de judiciarisation dans le débat public. Aujourd'hui on ne peut plus dire grand chose sans être menacé.
Non mais il y a des choses que tu peux dire. Je suis désolé.
Il y a des choses que tu peux dire. Ça te choque pas que des lois soient voter à l'Assemblée par des gens qui sont un gramme et demi. Moi, si, ça me choque.
Mais un gramme et demi, pas de cocaïne.
Oui, mais même, pareil. Oui, je suis d'accord.
À la buvette. C'est pareil. Ça, c'est une réalité.
C'est une drogue, de la même manière.
Donc, on sait tous très bien que nos députés, nos sénateurs sont des.
Alors, on a posé la question. Rima Hassan, qui est d'ailleurs convoqué de nouveau ce matin au commissariat, se retrouve dans la tourmente. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un dérapage supplémentaire, un dérapage de trop pour l'élu? Vous dites oui à 65%. C'est 65-35. À suivre. Alors là, on a un élu, tiens, Maël de Calan. C'est le président du département du Finistère. Vous vous souvenez, il avait lancé une espèce de chasse à ceux qui abusent du RSA. Et maintenant, il continue et il a mis en ligne de mire les druides. Parce qu'il dit, ils sont beaux les druides. Ils sont là pour le folklore et en même temps, ils font des compléments de revenus avec le RSA.
C'est Panoramix 2.0. Bah,
c'est un peu ça.
Être druide, c'est pas un métier.
Alors, est-ce qu'il profite du système? À tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 10h25, vous êtes avec les grandes gueules, avec Laura Barton-Martinez, avec Mourad Boudjellal, avec Joël Dagosséry. On va maintenant s'intéresser à une rébellion, à une confrontation en Bretagne entre l'autorité publique et la rébellion des druides qui ne veulent pas être moqués et qui disent « nous ne profitons pas du RSA ». Vous avez reconnu la musique d'Astérix parce que le druide le plus célèbre de France, c'est bien évidemment Panoramix. Ils sont 250 druides bretons. Ils sont même une cinquantaine réunis dans une association qui s'appelle Gorced. Et ils sont en colère, les druides, contre Maël de Calan, le président du département du Finistère.
Oui, qui est un proche d'Edouard Philippe. Alors, Maël de Calan, il est derrière toi en photo. Alors, c'est pas Gandalf, hein, là, c'est le Seigneur des Anneaux. Et derrière toi, il y a Maël de Calan, qui, effectivement, est parti en guerre contre ceux qui fraudent le RSA. Le RSA ne doit plus être détourné de son objet par des gens qui pourraient et qui devraient travailler. Et il estime que ces druides, et ils sont plusieurs, puisque la Bretagne compte entre 250 et 300 druides de toute obédience, et ils pensent que ces druides qui, pour certains, touchent le RSA, pourraient travailler parce que druide, ce n'est pas un métier. Alors, les druides se défendent. Ils ont donc attaqué en justice Maël de Calan avec la CGT. Ils dénoncent des contrôles abusif, un harcèlement institutionnel, et il reproche à Maël de Calan de les dénigrer en quelque sorte. Alors, qui a raison dans cette histoire?
La phrase de Maël de Calan, qui est assez rigolote, dit « Les druides devraient trouver un métier, une potion magique, pour mettre un peu de bon sens dans un débat hystérisé ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, Mourad?
On pourrait faire la même chose sur les voyants, sur les sorciers. Non, moi je pense que les druides en Bretagne, c'est culturel. Et je respecte énormément et je trouve bien qu'il existe encore des druides en Bretagne parce que c'est leur histoire. Et puis une fois de plus, je pense pas que 250 ou 300 druides ça a une influence énorme sur le budget de l'État français, quoi. Voilà.
Ah, parce que c'est le département qui paye.
Je pense que j'ai envie de dire,
il y a aussi pas mal. Tu peux toucher le RSA.
Non, mais c'est une occupation. C'est pas un métier, druide. C'est une passion. C'est une occupation. C'est un truc.
Mais c'est à la collectivité de payer tout ça.
C'est un peu comme entretenir des musées, quoi. Ça fait partie de l'histoire de la Bretagne, voilà. Et alors soit on dit la Bretagne n'est plus française, soit on l'accepte avec son histoire.
T'es le même Mourad qui voit qu'on baisse ses impôts.
Je suis respectueux du passé de notre pays. La Bretagne en fait partie, même si tous les Bretons ou tous les Celtes ne souhaitent pas toujours être français, je pense qu'il faut respecter ça. Voilà, c'est pas 250 ou 300 druides qui vont faire français le budget de l'État du mauvais côté.
Laura.
Qu'est-ce qui se passe?
Laura, tu peux pas comprendre.
Peut-être qu'il est druide lui-même.
J'ai déjà peur
qu'on me lance un sort,
Non, mais j'ai envie de dire, il faut qu'il parte en vraie croisade, parce que, à part quelques exceptions, je pense aux personnes qui sont handicapées et qui, avec juste une allocation handicap, peuvent pas s'en sortir, aux aidants qui, parfois, ont des parents qui arrivent pas à trouver de gens pour s'en occuper, donc ils sont obligés d'être au RSA pour s'occuper pour être aidants. Mais sinon, je pense que la grande majorité des gens qui sont au RSA sont des gens qui peuvent aller bosser, hein. Donc il a
faut juste qu'il y ait du travail.
Il y a du travail. Après, faut vouloir le faire, Mourad. Sinon, il y aurait pas de chômage en France.
Ah oui, c'est sûr. Si t'avais bac plus 7 pour faire garçon de café, oui, il y a le boulot. Ouais.
J'avais un diplôme où je me suis cassé le cul pour avoir mon diplôme. Il y avait pas de taf. Je me suis retrouvé à servir des cafés. J'ai pas le choix. Et c'est quoi? Il y a quoi de mal à ça? J'ai préféré garder.
Ah non, quand tu dis il y a du travail, il faut aussi qu'il y ait un peu du travail qui
correspond. Il y a du travail maintenant, faut vouloir le faire. Finir une phrase, en fait, dans cette émission aujourd'hui? Parce que c'est un chouïa insupportable, en fait. Je trouve que c'est quand même plus respectueux et plus légitime de se lever le matin pour gagner son propre oseille de plutôt que de compter sur l'argent des autres. Pardon. Donc maintenant, tu veux faire des potions magiques et aller découper des pissenlits? Super, fais-le pendant tes jours off ou après le boulot, comme tout le monde qui a une passion.
On peut faire les jouets. On peut avoir un boulot et druide.
Non, mais moi, je vais pas financer des gens qui veulent tchatcher avec les étoiles ou je ne sais quoi. Je suis désolée.
Les curés, c'est pareil.
Il y a un moment... Oui, mais
ils ne sont pas payés avec de l'argent public.
Ils peuvent être druides. Moi, je suis d'accord avec Mourad sur le côté culturel, etc. Et que la Bretagne conserve aussi son authenticité. Par contre, je peux pas financer quelqu'un qui a choisi de vivre de manière marginale. Ça, c'est un choix de vie. D'accord. Et donc cette personne-là, elle doit se dire comment je vais financer ma vie de druide. Mm-hmm. Parce que tu vois, moi, quand j'ai quitté mon emploi et que je suis devenue coach, je me suis dit comment je vais financer ma vie de coach. Voilà. Et ben, si t'as envie de devenir druide, tu réfléchis à comment tu vas financer ça. Et la deuxième chose, c'est que le RSA, c'est pas destiné à entretenir les druideries. Hein. Je suis désolée. Mm-hmm. Le RSA, c'est pour de la réinsertion professionnelle. Donc, soit ces personnes sont en capacité de prouver que elles sont druides, mais elles sont en train de chercher du travail, elles essaient de se réinsérer.
Ou
qu'elles travaillent à côté. Le RSA, il est bon. Soit c'est pas ça, soit t'es juste druide et tu veux vivre de druiderie. Bah, écoute, je t'en prie, crée ton business model. Voilà, c'est tout.
La société. Business,
ouais. Oui,
business. Moi, je pense que vous mesurez pas la puissance de la culture celte.
Oh là,
moi, j'ai rien à voir. Je veux dire que j'ai édité des bouquins en breton. Tu vois, je voulais savoir ce que ça donne. J'ai fait des ventes en langue bretonne supérieures à la langue française. Il y a une vraie communauté, il y a une vraie
remise en cause de la culture.
Et moi, personnellement, je veux dire, je suis pour défendre cette identité. Je pense que la France doit respecter. Alors, aujourd'hui, druide, tu gagnes pas ta vie, tu manges pas, bien sûr.
Oui, mais c'est pas le RSA. Mais dans ces cas-là, en Corse, on va donner le RSA aux Matzer, on va donner de l'argent à ceux qui dansent dans le Pays Basque. Enfin, non, mais tu vas où? Toutes celles qui font de la couture ou de la broderie à Calais, on va les payer parce qu'elles entretiennent le
patrimoine.
C'est
pas la même chose.
Le débat, c'est pas le débat pour ou contre les traditions.
Non, mais pas du tout. C'est juste qu'il n'a pas d'argument.
Là, c'est simplement le RSA qui est détourné de son objet. Le RSA, c'est pour éviter de tomber complètement dans la mouise, pour t'aider à un moment donné dans ta vie, pour essayer ensuite de rebondir, trouver un boulot, etc. C'est pas fait pour arrondir les fins.
Alors, on a Nicolas qui est par des élus qui ont des logements sociaux à Paris que par ça.
Mais encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont des gabiers, en fait.
Je suis choqué.
Nicolas de Quimperlé, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes dans le camp des druides ou dans le camp de Maël de Calan, alors?
Bah non, de Maël.
Pourquoi?
Moi, j'ai... Bah, parce que, bon, il s'attaque pas simplement à ça. Bon, tout ce que j'ai entendu, là, je suis d'accord, hein, avec Joël. En fait, il s'attaque, au problème du non-emploi et des emplois fictifs qu'il y a dans le Finistère. Et ça, il l'a bien expliqué. Donc, parce que le RSA, en fait, il est supporté par
le département.
Et il s'est attaqué. Alors justement, il a eu des petits problèmes avec la CGT dernièrement parce que soi-disant que il aurait mis un peu la pression sur certaines personnes parce que en réalité c'est des gens qui voulaient pas aller travailler. Mais aussi, il a mis l'accent alors sur les druides effectivement, mais il a mis aussi l'accent sur les pseudo agriculteurs qui ont trois poules et une vache. Hein, et qui finalement profite du RSA et puis d'autres aides. Et en fait, il englobe tout ça. Alors bon, évidemment, les druides là, ils sont peut-être pas très contents parce qu'ils vont peut-être plus aller cueillir du gui aux frais de la princesse. Mais à un moment, il faut arrêter.
Le RSA, c'est pas. Surtout qu'on peut, enfin, j'imagine qu'on peut être druide et avoir une activité à côté.
Bien sûr. Puis je vais vous dire, même si je suis un peu attaché à la culture bretonne, ça, c'est un peu folklorique tout ça.
Hein, ouais, mais c'est pas gênant parce que ça fait partie de la culture. Oui, mais est-ce que la collectivité doit payer tout ça?
C'est pas gênant, mais il faut pas que ça
C'est ce que dénonce ce département, ce que dit Maël de Calan. Le RSA est devenu un complément permanent de ressources. Voilà. Donc, on arrondit les fins de mois avec le RSA, quoi.
On sait très bien que beaucoup, par exemple, touchent le RSA et à côté font un travail au black.
Alors, attendez, Nicolas, parce qu'on a, Paul,
au moins, ils bossent pas au black, on les voit, les druides.
Paul, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Premier assistant réalisateur, mon cher Paul, c'est votre métier. Qu'est-ce que vous pensez de la bataille de Calan, les druides?
Mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule quand on parle de culture à proprement parler. En fait, les Celtes n'écrivaient pas, les druides transmettaient tout à l'oral. C'est une culture qui s'est perdue pendant des centaines d'années. Donc c'est pas une culture qui est continue. Les gens qui pratiquent le druidisme aujourd'hui sont des gens qui cherchent, qui essayent de retrouver quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui leur a été transmis puisque c'est une culture qui s'est perdue pendant des centaines d'années. Donc ce sont des gens qui sont certainement passionnés, ils ont tout à fait le droit d'ailleurs de l'être, et c'est sûrement quelque chose qui est tout à fait passionnant, mais ce n'est pas une culture continue, donc on ne peut pas dire qu'ils perpétuent une culture qu'ils connaissent, ils ne sont que des chercheurs en fait.
Alors est-ce que le département a raison de regarder un peu et de filtrer ceux qui abusent
ils devraient créer un pôle de recherche sur qu'est-ce qu'étaient les anciens druides et financer ça et donc du coup leur donner un vrai travail, mais ce n'est pas à nous de payer leur passion.
C'est pas stupide comme le RSA. C'est pas stupide. Oui, c'est un détournement du RSA.
Mais moi, je peux pas entendre ça.
Pourquoi, Joël?
Non, mais créer un département pour financer les
druides. Département druidique.
On n'arrive même pas à financer l'innovation.
Et après, c'est les mêmes qui voudraient qu'on fasse ces taxes sur le carburant.
Correctement. On est piétiné par la Chine et les États-Unis. Mais on va financer un département pour la recherche.
Les druides pourraient nous aider dans la bataille. Oui, bien sûr, je comprends.
C'est pas ça. Il dit justement, s'ils veulent en vivre, ils créent une asso, ils essayent de trouver par eux-mêmes des subventions.
Ah oui, ça oui.
Et qui passe à un druide business.
Ah oui, d'accord. Voilà, si effectivement, parce qu'ils ont une association apparemment, et qu'ils arrivent à créer de l'engouement autour de ça, et qu'il y a des gens qui veulent cotiser, adhérer, oui, et financer ça,
Nicolas,
moi je trouve ça plutôt bien. Ce que je reproche, c'est qu'on puisse imaginer que c'est à l'État de financer cette façon de vivre.
Nicolas, question, parce que vous êtes de Quimperlé, vous êtes dans le Finistère, donc vous en connaissez des druides ou pas?
Non. Non, honnêtement, j'en connais pas. Moi, je suis assez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis un peu, je suis pas hermétique à ce genre de choses, mais en fait, à part non, Aspiril, c'est obélisque.
Ouais, s'il y a un druide qui nous écoute, qui nous appelle,
allez-y, voilà. Mix.
En fait, ils font ce qu'ils veulent, mais pas avec l'argent des contribuables.
Exactement.
Voilà.
Et donc, quand même, le plus étonnant, c'est de voir la CGT soutenir ça, enfin, je veux dire sincèrement.
Ah ouais, non, mais eux, de toute façon.
Non, mais il n'y a pas d'autres combats syndicaux plus importants et plus essentiels.
Je ne vais pas m'étendre sur eux, mais l'essentiel, ça serait plutôt de créer effectivement de l'emploi, d'attirer des entreprises sur le Finistère et sur la Bretagne.
Oui, c'est intéressant.
Alors, Nicolas, on a posé la question, justement, Maël de Calan, qui veut remettre de l'ordre dans les finances publiques et qui dit voilà, les druides abusent du système. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils abusent du système? Oui. Vous dites oui à 92% par Toutatis et par Belenos. Je crois que
les gens sont tombés à la renverse.
Je crois que notre débat a été tranché. Dernier sujet de discussion de la deuxième heure des Grandes Gueules. Dans un instant, on va aller dans un village gaulois qui s'appelle la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public.
Et un parlementaire résiste
hier, ça aurait pu virer à la bagarre lors des auditions de Xavier Niel, Mathieu Pigas, surtout Xavier Niel, avec Charles Alloncle, le rapporteur. On vous en parle, on en discute avec vous au 32-16, il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC avec RMC Story, avec Mourad Boudjela, Laurent Barton-Martinez et avec Joël Dagosséry. On va s'intéresser maintenant à la suite et bientôt la fin, parce que je crois que ça se termine la semaine prochaine, de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public.
Ah oui, excusez-moi, j'ai 10 minutes, je passe mon temps à être coupé. Si vous souhaitez, je m'en vais, ou je sais pas, dites-moi. Je me crois à l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur.
Continuez, monsieur Niel.
Dans un cirque que vous allez créer.
Monsieur Niel, continuez, je vous en prie.
Alors, ça, c'est Xavier Niel, le patron de Fride, d'Iliade, qui s'en prend à Charles Alloncle, le rapporteur, vous savez, c'est le député UDR, le rapporteur de cette commission sur l'audiovisuel public. Ensuite, il y a eu un autre, on peut continuer d'en discuter, parce qu'après, il y a une autre intervention, celle de Mathieu Pigas, qui a été pas mal remarquée. On peut s'arrêter 2 secondes sur Xavier Niel.
Non, il faut préciser, il est là, non pas parce qu'il est patron de Fride, mais parce que c'est le fondateur de Media One, et Media One, c'est l'une des principales boîtes privées qui travaille pour France Télé. Et cette société est un peu dans le collimateur du rapporteur, le député Alloncle, depuis le début de la commission. Donc Xavier Niel est arrivé, moi j'ai vu, très énervé tout de suite. Et il a un peu perdu ses nerfs. On voit bien qu'il ne supportait pas ce que Alloncle avait dit sur lui, les tweets, etc. Donc il est arrivé avec l'intention d'en découdre et il a un peu perdu ses nerfs. Et Mathieu Pigas également avait un ton assez arrogant, etc. Mais je pense en plus que ce sont des personnalités qui ont vraiment réussi et bravo à elles, mais qui n'ont pas du tout l'habitude finalement d'être interviewées, d'être un peu bousculées, d'être un peu contredites. C'est des gens que vous verrez jamais dans les médias, étonnamment, alors qu'ils détiennent des médias ou des boîtes de prod, mais il refuse toujours un peu les interviews et autres. Et donc là, il se retrouve un peu sur le banc des accusés, même si ce ne sont pas des délinquants. Et donc, à devoir répondre. Et ça a été très compliqué, très, très chaud. Mathieu Pigas, lui, il a fait un parallèle assez, assez curieux. Il a dit que ça nous coûtait moins cher le diviseur public que si on était abonné à Canal+.
Et on l'écoute.
Si on rapporte en coût par habitant, ça fait à peu près, je pense, plus de 50 euros par habitant annuel. Et ça fait environ 4 euros. Par habitant par mois. 4 euros par habitant, vous avez quoi pour 4 euros? C'est quand même, je parle à l'expert mondial de ces sujets, Xavier. Vous avez la 2, la 3, la 4, la 5, vous avez Arte, vous avez France Info TV, vous avez les archives de l'INA, vous avez, je vais oublier plein de choses, mais c'est pas grave, tout Radio France. Tout ça pour 4 euros par mois. Chez Monsieur Bolloré, puisqu'il a fait ici la comparaison, le coût moyen, ça doit être 30 ou 40 euros par mois pour avoir quelques matchs de football et de rugby. Bon, faites votre choix.
Dis pas du mal du rugby, toi.
C'est un calcul d'ailleurs curieux pour un banquier d'affaires, parce que déjà personne, on nous demande pas de nous abonner ou pas au service public, on est obligé de payer, même si on ne regarde pas France 2 ou France 3, alors que Canal c'est un abonnement, donc c'est pas la même démarche commerciale. Puis deuxièmement, il ramène le nombre de téléspectateurs au nombre d'habitants et il dit on arrive à 4 euros par habitant. Mais enfin bon, donc il prend les bébés aussi, donc ça n'a pas de sens, ça ne coûte pas 4 euros par habitant, ça coûte beaucoup plus. Donc cette comparaison est assez merde. C'est amusant quand même, c'est paradoxal de voir des millionnaires, des milliardaires du privé défendre le service public avec autant d'acharnement, les mêmes qui pourraient quand même régulièrement se plaindre de payer trop d'impôts.
C'est Adèle qui veut réagir, notre ami traiteur du côté de Chantilly. Bonjour Adèle.
Bonjour à toute l'équipe.
Qu'est-ce que tu en as pensé de ce qui s'est passé hier, Adèle?
C'est très bien. À un moment, il faut remettre les gens qui vivent d'argent public, qui vont faire des reproches à des gens qui font leur propre argent eux-mêmes, en fait. C'est quoi cette commission qui sert à rien?
Ils vivent aussi d'argent public.
On parle de Xavier Niel.
Il vit aussi d'argent public.
Sa société. Oui, mais s'il y a un appel d'offres stupide, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais vous donner un simple exemple. Pendant le Covid, vous savez, ils donnaient de l'argent pour. Comment ça s'appelle? Ils donnaient de l'argent, les 20% aux restaurateurs. Pendant le Covid. Mais par contre, quand vous devez remplir votre formulaire, on vous disait de ne pas prendre en compte la livraison à domicile. Sauf qu'on était autorisé à faire que de la vente à emporter. C'est-à-dire que tu étais obligé de mettre un chiffre d'affaires à zéro puisque tu ne devais pas mettre en compte ce que tu faisais à zéro. Mais si l'État te donne 20%, il faut être stupide. Si l'État jette l'argent par les fenêtres, faudrait être stupide de pas se mettre en bas de la fenêtre et ramasser l'argent. Xavier Niel, c'est un chef d'affaires, il voit des appels d'offres bidons. Oui. Bah, il récupère l'argent, on va pas lui reprocher ça à lui, à des gens qui ont d'argent public, qui sont là pour se faire mousser, comme il a très bien dit, à travers des tweets, parce que c'est ce qui l'a dérangé. Il lui a, pendant trois minutes, il lui a lu son tweet. C'est quoi ces politiques qu'on a aujourd'hui? Laisser les gens faire de l'argent privé et on supprime l'audiovisuel public, 4 milliards. C'est ça. Alors, qui est sur lequel il
faut parler de télé d'État, pas d'audiovisuel public.
Et d'aide morale?
Bon, pour moi, c'est de la télé d'État, quoi. Et donc, est-ce que le rôle de l'État, c'est d'avoir des médias? Je crois pas. Moi, je crois pas que ce soit le rôle de l'État. Après, admettons, je trouve quand même assez normal qu'on puisse vérifier que les choses soient payé au juste prix. Oui. Ça me paraît la moindre des choses. Moi, j'ai pas de sympathie pour Allium, c'est ça Charles-Henri. Particulière, mais je trouve qu'il fait un travail remarquable, même s'il est un peu partisan par moment où il a sorti des fausses informations, mais il fait un travail de fond qui est plutôt intéressant. Et quand il nous dit que je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros par jour de cocktails à France Télévisions, c'est pas normal. C'est autre chose que les druides, ça. C'est autre chose que les druides.
4 millions de taxis aussi.
Voilà, 4 millions de taxis. Je veux dire, je crois que c'est si je dis pas de bêtises, alors j'ai peur de dire une bêtise. Bon, après, ça serait pas la première que je dis aux grandes gueules, 160 000 euros de mémoire. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a quand même le droit aujourd'hui de surveiller, le contenu des programmes, parce que avoir une télé publique, ça veut dire aussi orienter, expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien.
Forcément.
Former aussi des personnes. Voir l'utilisation qui est faite de notre argent. Je veux dire, l'argent public peut pas couler à flot. On nous explique qu'il peut pas couler à flot pour nous rattraper les taxes sur le gasoil, alors que ça concerne l'ensemble des Français qui ont besoin de travailler. Il peut pas couler à flot non plus pour des programmes de divertissement. On parle de divertissement la plupart du temps. Il peut pas couler à flot. Voilà.
Ce que disait Nagui, si je me souviens bien de ce qu'il a dit.
C'était très bien Nagui.
Tu me rectifies, Olivier, si je me trompe. Je crois qu'il a dit que son émission coûtait 100 ou 150 et qu'elle aurait rapporté 200 ou 220 à France Télévisions.
Alors là aussi, il y avait un débat parce que Charles Alloncle expliquait que Nagui se faisait 1,5 million par an sur simplement
qu'il
le jeu
chiffre d'affaires et
le jeu, n'oubliez pas,
il coûte, mais je rapporte aussi derrière. Il y a un retour sur investissement à France Télévisions.
Il salaire et dividende, ça n'a rien à voir. Il y a 100 000 euros. Quand tu touches 100 000 euros, c'est pas du salaire. Ça veut dire que rapporté à un salaire, tu divises par quasiment.
À sa société.
Tu prends 40% pour apporter.
Il fait 10 000 fiches de paye, c'est ce qu'il dit. Salaire. Derrière, il est générateur d'emploi.
Peut-être. Mais est-ce que c'est la mission du service public de
moi, ce que je trouve anormal, c'est qu'en règle générale, les gens qui ont de l'audience et du talent, le privé paye plus. On est dans le seul domaine où le public paye plus que le privé.
Arnaud est au 32-16. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Arnaud, vous?
Moi, il y a deux choses qui m'ont particulièrement choqué. C'est déjà d'une l'attitude des trois, parce que je mets Nagui aussi dans l'eau, je mets pas que Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Enfin, j'ai trouvé l'attitude totalement irrespectueuse vis-à-vis des institutions. Moi, je les inviterais un peu plus d'humilité, surtout quand on abuse de l'argent public comme ça, parce que pour moi, il y a beaucoup d'abus dans cette utilisation d'argent public au regard du résultat sur certains contenus. Et puis, ça donne l'impression que c'est un petit système qui est un peu très bien huilé, sur lequel on se coopte entre petits copains, on se fait notre petit business entre nous, et puis ça crée des sociétés où l'argent coule à flot. Et j'ai un peu l'impression qu'on abuse et profite de l'argent public.
Ouais, vous avez tout compris.
En l'absence totale de contrôle en plus. Ouais. Parce que là,
et dès qu'il y a un contrôle, ça les gêne.
Et on a vraiment l'impression qu'ils sont tous en roue libre et que là, on les gêne énormément dans leur attitude et la roue libre totale dans laquelle ils sont.
C'est les intouchables, c'est un peu ça, c'est le sentiment que vous avez.
Clairement, ça transpire. Comment ça se fait qu'on vient nous demander des comptes?
C'est
un peu le pognon des Français. C'est un peu un pognon de dingue, comme dirait un certain président, qui est un peu dilapidé n'importe comment, j'ai l'impression.
Je trouve que la réaction de Niel, elle lui porte préjudice. Parce que tout ça, la droite est le chef d'entreprise et travaille pour le service public. Enfin, il y a combien d'entreprises privées qui travaillent pour le service public
Il y en a peut-être un peu trop. Parce qu'il y a 9 000 salariés.
Sauf que S'il avait donné son salaire, les contrats, comment c'est négocié, etc. Puisque malheureusement, quand tu travailles avec de l'argent public, tu te dois une certaine transparence. Oui. S'il avait été calme, qu'il aurait donné ces trucs, on se serait dit, en fait, peut-être que le truc a été monté en épingle et on aurait pu justement aller dans son sens en disant peut-être que Charles Alon, qu'il a chargé la meule. Et voilà, on aurait pu être un peu plus apaisé. Là, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc en fait, il sait pertinemment que soit il y a des sous qui se promènent à droite à gauche, qu'il y a des sous de table, qu'il y a de la surfacturation. Mais c'est pas ça, c'est que si tu arrives et tu dis, bah tenez, c'est mon bilan, c'est mes contrats, c'est mes, voilà, je vous donne, faites, moi je travaille, je suis blanc comme neige, allez-y, go. Quand tu arrives avec un, déjà de manière énervée, enfin, moi je le dis, ça a été ma télé-réalité préférée de l'année, hein. Je me suis du petit lait. Ça, il se dénonce tout seul. C'est-à-dire que quand tu arrives avec autant d'énervement et une telle peur, c'est que forcément, c'est que t'as des choses à cacher. Et moi, c'est ce truc de, ah bah, pour, en quoi c'est gênant de devoir donner ton salaire quand tu travailles avec de l'argent public? C'est une transparence que tu es obligé de donner.
Bon, moi, ça m'est insupportable. Moi, je crois que ce pays n'ira nulle part. Xavier Niel, je parle pas de Mathieu Pigas, mais on va parler de Xavier Niel. Moi, je crois qu'on aurait dû dérouler le tapis rouge quand il est venu là dans la petite salle de l'Assemblée nationale. Je veux dire, ça va être quoi la trace de Charles Lancle dans ce pays? Quelle trace il va laisser dans vos vies? Charles Lancle.
Oh bah, c'est un jeune député.
Qu'est-ce qu'il non.
Mais est-ce que ça vaut du
mépris? Quand Charles Lancle aura fini son mandat, ça va être quoi l'impact social, économique de Charles Lancle? Ça va être quoi? Ça va être walou, nada, fouille, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Rien, voilà.
Xavier Niel, il n'est pas face à Charles Lancle.
Non,
il est face à la représentation nationale.
Oui.
Bah si,
moi, quand on parle, vous voyez l'auditeur, il a dit oui, mais ils se font des petits trucs entre eux, des petits arrangements entre eux. On parle d'un énorme chef d'entreprise, comme si c'était une petite frappe, tu sais, une petite frappe qui fait des petits trucs, des petites magouilles, etc.
Il a été maltraité, déconsidéré.
Non. Moi, je veux juste rappeler de qui on parle. Moi, je ne connais pas Xavier Niel, mais moi, je suis une petite entrepreneur, et le rôle d'un entrepreneur et d'une entreprise, c'est d'avoir un impact social et économique. Xavier Niel, moi je me souviens quand il a débarqué avec Free, on payait presque 50 euros de forfait, c'est-à-dire que les trois opérateurs étaient en train de nous entuber et nous faisaient croire que avec un forfait illimité, donc appelé en illimité, ça devait te coûter entre 50 balles et 79 balles. C'est ça qu'il nous faisait croire. Lui, il est arrivé, il a dit, non mais coco, ça va vous coûter que 19 euros. Ensuite, il est passé à 2 euros. Et donc, moi j'ai regardé combien d'euros on avait économisé grâce à Xavier Niel, 10 milliards en tant que Français.
Mais moi, je vais économiser
10 milliards avec Charles Lancle.
Non, ça c'est sûr.
Voilà.
Avec les députés,
merci.
Aucun député.
Merci. Mais et donc Xavier Niel, il était énervé. J'ai regardé pourquoi il était énervé. Il l'a très bien dit. Il a dit parce qu'en fait, il devait être un conseil d'administration d'une boîte dans laquelle il a injecté des millions, où il a réussi à mettre au conseil d'administration 6 Français sur 10. Et donc, il avait demandé aux équipes de, je pense, de l'Assemblée nationale de reporter, juste de décaler son audition.
La première a été décalée. Hein.
Et ils l'ont envoyé chier, apparemment.
Bah, à un moment donné, tu peux aussi décaler son conseil d'administration.
Oui, bien sûr.
Bah,
donc,
oui.
il est en train de faire quelque chose qui peut faire remonter la France. Mais on vient lui dire, non, viens t'asseoir là devant Charles Lancle. Viens t'asseoir, on va te demander. T'as fait quoi avec Media One? Non, alors.
Donc, on n'a pas le droit de poser de questions sur l'utilisation de l'argent public en France.
On doit le faire. Je dis juste que l'énervement, parce qu'on dit qu'il s'est énervé et tout, voilà d'où il venait et je peux comprendre cet énervement. Moi, je suis désolée. On a besoin d'emplois en France. Quand on a des gens comme. Non. Attendez, écoute. Avec le taux de chômage, tu ne me mets pas un tunnel. Alors. Donc, quand on a des gens. On a des millions de personnes qui cherchent un emploi et que tu as quelqu'un qui te crée 2-3 emplois, je veux dire, tu lui dresses un tapis.
Allez, troisième heure de GG dans un instant. Restez avec nous en direct sur RMC.
Je ne peux pas venir en contrôle fiscal, Tori.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.